One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
Amis auditeurs, allô, tu écoutes SLP, salut les PD sur Divergence FM, salut Ariane.
Salut Philippe.
Salut Ghislain.
Yo.
Comment ça va?
Ça roule.
Vous avez passé une bonne semaine?
Super.
on parle de quoi déjà? Aujourd'hui, on parle homoparentalité.
Ouais, d'accord.
Il y a des choses à dire. Hein. Enfin, homoparentalité, entre autres, peut-être ça va nous amener carrément à parler plus largement de la parentalité, ça se dit ça? Oui, ça doit se dire.
Ouais,
aussi.
Ça se dit.
Et des liens de parenté,
on le dit. Mariage, ça se dit mariage sans gay. Hein.
Ça se dit mariage gay?
Non, ça se dit pas, on dit mariage tout court, c'est bien ça.
Ouais, c'est bien ça,
la question,
c'est ce qu'on disait
la
dernière fois. Donc, homoparentalité, oui, parce que c'est la suite logique de notre précédente émission.
Tu veux dire qu'on se marie et après on fait des enfants, c'est ça?
Ouais, bien sûr.
On est hyper classique en fait.
Et ouais, totalement.
Une fille, un garçon, un cheval blanc, un château, tout va bien.
Un cheval blanc, un château.
Ah oui.
Une princesse rencontrée dans les bois.
Et
une sorcière dans les parages. Donc.
J'aime bien les sorcières, moi.
C'est vrai, moi aussi.
Moi, j'adore les sorcières.
Ouais, bah pour commencer, petit jingle, Tao, parce que on l'adore ce jingle-là.
SLP, la émission.
Alors,
oui, j'aime bien l'autre aussi, moi.
T'aimes bien l'autre? On passera à l'autre dans un petit moment, on l'écoute pas assez. Le cucu, tu veux dire?
Ah oui, moi j'aime bien le cucu.
Homoparentalité, tu nous as concocté quelques sons, c'est ça, Ghislain?
Eh bien oui, suite à tes conseils, je suis allé sur Internet pour écouter la matinale de France Q avec Maurice Godelier.
Maurice Godelier,
oui,
ouais. On va en parler pas mal parce que ça a été un peu notre référence pour préparer cette émission. Alors c'est un anthropologue, Maurice Godelier, c'est ça?
Ouais, c'est un anthropologue qui est absolument passionnant.
Ouais.
Tu peux nous citer son ouvrage?
Il en a plusieurs, mais disons que l'ouvrage qui nous a aidé à préparer cette émission, ça s'appelle « Métamorphose de la parenté ». C'est un pavé de...
Jaune, il est jaune.
Il est jaune parce que, tout simplement, c'est un format poche. Il est publié chez Flammarion, Chant, Essai. Maurice Godelier, « Métamorphose de la parenté ». Et 1000 pages que vous n'êtes pas obligé de parcourir du début à la fin,
c'est
le bouquin lingot. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment hyper instructif et ça remet pas mal de choses en question et en perspective.
Oui, disons que c'est bien d'avoir un avis scientifique sur des intuitions.
Waouh, tu nous la refais celle-ci?
Non.
Tu l'as pas compris du premier coup, Philippe, tu fatigues.
Si, non, mais je trouve que c'est performant, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut sentir plus ou moins intuitivement.
Ou qu'on peut se dire entre nous,
exactement.
Et tu vois. Et là, tout à coup, t'as un mec qui débarque et qui te dit, en fait,
j'ai travaillé 30 ans et je suis d'accord avec vous.
Voilà, je suis anthropologue.
Et je vais vous expliquer pourquoi,
ouais, voilà.
Clairement en plus.
Donc c'est vachement intéressant.
Donc premier son, Maurice Godelier sur France Culture.
Ouais.
On l'écoute.
Maintenant, le problème des... ce qui vous intéresse, c'est le problème de la revendication de couples homosexuels, gays ou lesbiennes, à vivre une sexualité autre et en même temps à satisfaire d'une manière légale un désir d'enfant. Donc il faut un peu revenir en arrière. Il y a deux choses qui se présentent là-dedans, si on peut dire. Non, il se passe qu'à partir du XIXe siècle, du début du 19e siècle, l'enfant est valorisé de façon différente et l'enfance devient une valeur différente du passé moyenâgeux ou autre. Ça continue pendant tout le 19e siècle. Et on arrive jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'enfant, qui est une chose invraisemblable et qui est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, l'enfant devient une valeur pour les parents. Valeur de l'enfant et de l'enfance. Bon, ça n'a rien à voir, ça, avec l'homosexualité et autres. Hein? Bon. Il se passe que, à partir du XXe siècle, une seconde évolution existe et prend place. On voit dans le domaine médical, aux États-Unis, au Canada, en Europe, successivement, l'homosexualité est dépathologisée. Ce n'est plus une maladie dont il faut guérir les gens, forcer l'homo à devenir hétéro, ce qui est très difficile, n'est-ce pas, fondamentalement. Bon. Ensuite, en psychologie, dans les ordres de psychologues, psychiatres, etc., l'homosexualité n'est plus une perversion. Et troisièmement, dans un domaine totalement inattendu, la primatologie, hein, nos amis, les chimpanzés et les bonobos, on découvre petit à petit, parce qu'on ne voulait pas le voir avant, parce qu'on ne pouvait même pas le voir en regardant, que quand même... les bonobos sont à la fois homo et hétéro. Donc, vous avez les femelles se frottent la vulve, etc. On découvre que nous sommes, si vous voulez, nos cousins sont bisexuels. Ce que Freud avait déjà découvert sans aller dans les zoos. Hein? Bon. Donc, petit à petit, on découvre que l'homosexualité fait partie de notre structure, mais forcément, on comprend bien que les sociétés ont placé l'homosexualité à des places différentes, parce que avec des homos, on n'aurait pas pu aller loin, non? Bon, ça va, c'est clair. Donc l'hétérosexualité a toujours été privilégiée. Mais il y a des statuts de l'homosexuel, le guerrier grec était homosexuel, etc. L'homosexualité a été socialement pensée, vécue et structurée différemment selon les sociétés. Bon, nous, c'était une société de refoulement, c'est le christianisme aussi. Hein. Faut pas oublier que depuis la fin de l'Antiquité, la famille nucléaire, papa, maman, la bonne et moi, c'est devenu une formule générale de la famille. Mais c'est une forme de famille parmi des dizaines. Hein. Je vais vous faire un petit inventaire tout à l'heure, vous allez voir. Donc, deuxième évolution, l'homosexualité apparaît il y a 20 ans comme une sexualité autre, mais normale. Bien. Donc, il s'est passé, il faut comprendre comment, dans l'Occident, deux choses se sont rassemblées ou ont convergé. D'un côté, le désir d'enfant, et de l'autre côté, l'homosexualité, qui est une sexualité autre, mais normale. Donc, on a eu cette conjonction que certains homosexuels ont voulu vivre leur sexualité et en même temps assouvir un désir d'enfant comme les autres.
Bon, ben voilà quoi. Pour moi, tout est dit.
Ouais, non, mais il est d'une clarté avec en même temps des expressions que j'adore. Alors, les femelles se frottent la vulve. Ariane, tu nous confirmes.
J'ai tiqué sur ça.
Tu as tiqué sur ça, pourquoi?
Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai, pareil, les bonobos, on parle que des mâles qui, voilà, là, on parle des femelles.
Ouais,
merci,
lui parle des femelles. Hein.
Eh oui. Mmh. Tu vois qu'il est bien. Femelles, mais bon.
Le christianisme, société de refoulement, ça c'est dit aussi.
Mmh. L'homosexualité fait partie de notre structure.
Ouais. Ça l'homosexualité aussi, c'est quand même important. Est dans la nature, de façon naturelle. Il le dit aussi comme ça dans son bouquin. Ça c'est pareil, ça vaut le coup d'être rappelé, redit et re-redit.
Et la place que ça prend suivant les lieux et les âges, puisque oui, quand il y a une mortalité infantile importante... l'hétérosexualité pour la préservation de l'espèce, voilà, mais bon, quand les problématiques démographiques sont pas les mêmes, la place de l'homosexualité peut encore changer.
Exactement.
Exactement, c'est ce qu'il explique en disant que la société a toujours réfléchi la place de l'homosexualité à l'intérieur d'elle-même.
Et il existe plein de structures familiales possibles. Alors, papa, maman, la bonne et moi, c'est chez
une
nous.
Une des structures possibles.
Mais c'est, voilà, une des structures possibles, et certainement pas la seule. Hein.
En tout cas, c'est intéressant de voir tout son historique aussi, c'est-à-dire l'évolution de la place de l'enfant qui passe d'un espèce de truc qui nous emmerde, dont on a bien besoin pour hériter, transmettre des choses, mais qui nous fait un peu chier, à le centre du monde. Mmh. Et en parallèle, l'apparition des dépénalisations de l'homosexualité, de la sortie de l'homosexualité, des maladies mentales, de... cette apparition de la sexualité comme sexualité autre mais normale, le parallèle des deux fait concorder le désir d'enfant et la... Enfin, tu vois, cette explication est assez intéressante aussi.
Oui, sur le glissement sur la place de l'enfant, t'es passé de la bouche à nourrir ou de la force de travail potentielle à le trésor de la famille. Et ouais, puis même sûr. L'expression qui est répétée... papa, maman, la bonne et moi, le moi, c'est l'enfant. Alors que c'était pas forcément le premier sujet dans la description, description de la famille jusque-là. Quoi.
Alors dans son livre, il est dans un contexte plus général, parce que là, on est vraiment sous l'angle de l'homoparentalité. Mais en fait, il explique l'évolution en Occident des liens de parenté, des structures parentales, avec trois facteurs qui ont bouleversé les choses. Enfin, quand je dis bouleversé, c'est sur plusieurs siècles. C'est effectivement... Le rapport, parce que ça, il l'évoque pas forcément dans ce qu'on a entendu, mais tout simplement le rapport des individus, de chacun d'entre nous, à la sexualité, et ça a beaucoup bougé, notamment sur ces 40 dernières années, de la place des hommes et des femmes, ça c'est pareil, c'est sur le dernier demi-siècle, et forcément le rapport entre l'homme et la femme, et troisième point, effectivement, la place de l'enfant, qui, là, pour le coup, il le situe sur les deux derniers siècles, on va dire.
Ouais. Et il parle au singulier, il parle au singulier quand il écrit, parce que tu as dit l'homme et la femme. Moi, j'aime bien dire les hommes et les femmes, voire les humains. Donc,
Alors là, faudrait qu'on aille voir dans le texte, Ariane.
Oui, je suis chatouilleuse, désolée. Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et c'est aussi ce qui est intéressant dans sa démonstration, c'est que... il se contente pas à l'homosexualité, c'est-à-dire qu'il nous parle des changements de la société en général qui concernent aussi l'hétérosexualité, l'évolution de la place de l'enfant, l'évolution de la famille nucléaire, ce genre de choses-là, voilà, tu
les
vois.
Les familles monoparentales, voilà. Les familles recomposées, effectivement, qui justement, en fait, remettent en question, encore une fois, les structures parentales avant même que n'apparaissent
les revendications,
et les revendications des homosexuels en matière de parenté.
Et ça rejoint ce qu'on dit ici depuis toujours, depuis bientôt 20 ans.
On le dit depuis toujours.
Depuis bientôt 20 ans, en comptant RPBK, c'est nos revendications à nous ne nous concernent pas. Ne concerne pas que nous, ça concerne d'une façon générale tous les gens qui vivent dans la société.
On fait une pause musicale et on y revient.
I gave him my number, and then he called me back.
Alors ça, honnêtement, moi, je sais pas comment le prononcer. Ariane, tu prononcerais comment le nom de cette artiste fabuleuse?
Amanda Lepore.
Amanda Lepore, yeah. Et non, ouais. Pas Amanda Lepore.
Ouais, franchement, non, je dirais Amanda Lepore.
Bon, en tous les cas, c'est une copine de Caswell, notre chouchou. Et d'ailleurs, il y a un featuring de Caswell dans la vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, oui. En brun, c'est trop bizarre.
Ouais, c'est ça, trop
c'est
bien.
Ça, c'est un gros pesant de cacahuète.
Non, elle est très belle, la vidéo. Donc, le titre, c'est Cotton Candy. C'est très facile à trouver sur YouTube et autres.
On vous le conseille chaudement.
Ouais, c'est l'autre partie du binôme. Caswell, Amanda Lepore, ils sont toujours ensemble.
Ouais, on peut dire elle, peut-être, d'ailleurs.
Ouais, pour les deux.
Bon, SLP, salut les PD, on parle homoparentalité et...
Parentalité tout court aussi.
Et parentalité tout court aussi, forcément.
En gros, on parle.
Oh, mais ça, pour parler, on parle. On écoute un second son avec Maurice Godelier, anthropologue, qui a écrit récemment Métamorphose de la parenté. Donc, c'est toujours extrait d'une émission de France Culture.
Les matins
de France Culture, oui, qui date de janvier 2011.
Faut être vachement accroché, n'empêche, pour écouter les matins de France Q, parce que, waouh, t'imagines si ça passe le matin super tôt, t'es en train de prendre ton petit-déj et t'écoutes ça, dis donc.
Bah oui, mais au moins, enfin, ça dépend, si t'es un lève-tard, t'as pas forcément les neurones hyperactifs, mais en tous les cas, moi, je le fais de temps en temps, ça me réveille, finalement.
Ah. Ouais, moi je le faisais à un moment où j'étais dans un milieu professionnel super pas folichon du tout et ça me faisait du bien.
Allez Tao, on y va, on écoute.
SLP, l'émission qui vaut trop le cucu.
La famille est en train de bouger, enfin la parenté ou les systèmes de parenté sont en train de bouger partout et en Europe depuis un certain temps. Vous avez... Un système de parenté, c'est quoi? Des rapports de parenté, c'est deux axes. Hein. C'est de la filiation, de la descendance, quoi, et des alliances. Hein. Bon. On assiste à quoi depuis une vingtaine d'années? On assiste à une sorte d'ouverture et de flexibilité du point de vue des alliances, avec par exemple le divorce par consentement mutuel a créé des centaines de milliers de familles recomposées, au sein desquels une parenté sociale s'élargit et la parenté biologique est toujours présente, mais elle est restreinte. Donc il y a un mouvement qui donne de plus en plus d'importance au rôle de social de parent, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être génétiquement relié à des enfants pour se comporter comme un père ou se comporter comme une mère. Donc vous voyez déjà une ouverture en France qui se détache de la base biologique et de l'héritage génétique.
Voilà. Ouais, alors, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que effectivement, il parle homoparentalité, mais il replace ça dans une histoire et un contexte,
ouais.
En fait.
Ben ouais, bien sûr.
Et il démontre très bien que ça découle encore une fois d'une évolution.
C'est une évolution de la société, en fait. C'est encore une fois, c'est la confluence de deux aspirations, de deux libérations, on va dire. C'est-à-dire une libération hétérosexuelle, on peut divorcer, on peut se remarier, on peut élever des enfants auxquels on n'est pas lié biologiquement, et en même temps l'aspiration des homos à être parents aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, effectivement, il met bien en évidence qu'il y a différentes formes de parenté. Il y a une parenté biologique et une parenté sociale. Et du coup, aujourd'hui, il peut y avoir, encore une fois... C'est comme deux rôles différents, il peut y avoir clivage, notamment dans les familles recomposées, quoi.
Ouais, bien sûr.
Entre autres, dans les familles homoparentales, ça peut être le cas, mais dans les familles recomposées aussi.
Mais pas uniquement là-dedans, enfin, il y a plein de cas, en fait. Moi, je suis allé il y a 15 jours à une université populaire participative à Marseille sur la protection de l'enfance, et on s'aperçoit, en fait, que dans plusieurs des cas étudiés, enfin, proposés, le fait que le lien biologique soit maintenu coûte que coûte en France est le seul lien qui compte et qui doit être maintenu obligatoirement coûte que coûte, ça pose d'immenses problèmes. Vraiment. Alors,
et dans un petit fait divers récent, on a vu que le sacro-saint intérêt de l'enfant était une image parfois extrêmement subjective, puisque justement pour préserver la primauté du lien biologique, le bien-être de l'enfant pouvait être complètement ignorée, quoi.
Complètement ignorée, oui, puisqu'on a retiré, en fait, une fille d'une famille d'accueil qu'il avait accueillie alors qu'elle était bébé, et sous prétexte qu'ils étaient trop attachés à cet enfant, et que si un jour les parents biologiques voulaient revenir, le retour risquait d'être rendu difficile, justement, par ce lien très fort. Mais on parle aussi en ce moment d'anonymat, de don de gamètes, etc. Mmh. Et c'est vrai que, puisque le lien biologique, c'est le lien qui compte aujourd'hui, si jamais l'anonymat est levé, est-ce que justement ça ne créerait pas des droits, c'est-à-dire des droits et des devoirs, c'est-à-dire l'enfant a le droit de dire bah, j'ai un lien biologique avec cette personne, c'est donc mon père.
Comme on l'a vu pour l'accouchement sous X, où les grands-parents ont obtenu que la filiation soit établie malgré la demande de la mère pour le d'accoucher couple biologique d'accoucher sous X.
Ouais, non mais c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société qui privilégie le lien biologique alors que la société a évolué et que ce lien biologique n'est plus celui aujourd'hui qui fait le parent.
On est encore dans une société où on en est dans la reproduction, même si ça fait un petit moment que les cours de biologie
sont censés nous parler de procréation. Alors qu'il y a plein d'autres structures familiales qui sont possibles. Alors, moi j'ai envie de lire tout simplement un extrait. Métamorphose de la parenté, Maurice Godelier, c'est dans son chapitre de conclusion. Ouvrez les guillemets. La parenté sociale, délié de tout rapport biologique, n'a donc occupé pendant des siècles qu'une place mineure, c'est ce qu'on évoquait. L'adoption, par exemple, ça il faut le savoir, ayant été interdite par l'Église avant d'être réinstituée au XIXe siècle dans un certain nombre de pays. C'est pourquoi l'obsession du fondement génétique de la parenté devra disparaître si nous voulons prendre en compte et réguler les nouvelles formes de parenté. Car celles-ci, il faut y insister, ne sont ni un bonheur ni un cauchemar. Elles sont tout simplement filles de nos sociétés et de notre époque. Et un peu plus loin, il ajoute, les conséquences sont faciles à comprendre. Le couple ne se confond plus avec la famille, le conjugal se dissocie du parental, et la parenté revêt de ce fait de plus en plus un contenu social indépendant du biologique ou du génétique.
Ben voilà, moi il est bien ce garçon. Et d'ailleurs, en parlant d'adoption, je ne sais plus si c'est encore valable, si ça a changé, mais il y a quelques années, Martine Cross a écrit un livre sur la famille homoparentale où justement, elle disait que ce lien était tellement fort que, par exemple, lors d'une adoption, l'acte d'adoption disait... Enfin, il était inscrit après sur les actes civils et tout ça, que l'enfant était réputé né de... Monsieur et Madame, l'enfant adopté. Ça veut dire qu'on crée un faux lien biologique.
Ariane ?
Non, je me dis vraiment vaste question, et je repense à cette idée de l'intérêt de l'enfant et à tous les détracteurs de l'adoption, simplement l'adoption pour les couples non hétérosexuels, on va dire. Quand on voit des enfants qui sont soit en institution, soit qui vont de famille d'accueil en famille d'accueil puisqu'on ne leur permet pas de rester longtemps et qu'on refuse de donner le droit à l'adoption à des couples ou à même des célibataires parce qu'ils se déclarent homosexuels, je souffle.
Non, mais c'est surtout encore une fois, on en est avec la même chose qu'avec le mariage gay, c'est-à-dire qu'avec l'ouverture du mariage, c'est que en fait, on a des politiques qui sont complètement à rebrousse-poil de la société, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à la société comme au 19e siècle et non plus comme au 21e siècle.
Ils la réfléchissent comme au 19e, comme au 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur un système de valeurs qui est hérité. Encore une fois, du christianisme, tout bonnement. Hein.
Ouais. Mais si tu veux, ce qui me pose problème, c'est qu'en France, c'est pas les seuls. Tu vois, en France, on est tous, quelle que soit notre histoire, héritiers de ça. On a été élevés dans cette culture-là. Les valeurs qu'on nous a transmises à l'école, les valeurs qu'on nous a transmises un peu partout, elles découlent de là. Sauf que aujourd'hui, les gens qui sont quand même qui ont été élevés là-dedans, qui portent ces valeurs-là, ils réussissent à divorcer, à se remarier, à être des parents sociaux, et tu vois, alors que le politique, lui, il évolue pas, Il est déconnecté de ça.
Mais il est même très très déconnecté, puisque l'intérêt premier de l'enfant, c'est une expression qui est passée dans le langage courant, et liberté, égalité, fraternité aussi, c'est des choses qui sont écrites sur tout un tas de frontons, même si c'est très oublié, on le sait, mais on est quand même élevé dans l'espoir ou dans l'illusion que ça puisse exister. Et dans tout ça, l'intérêt premier de l'enfant, c'est d'être dans un foyer aimant. Qui constitue ce foyer tant qu'il est aimant, protecteur, et que l'enfant, dans son intégrité physique et affective, est respecté, c'est toujours préférable à d'autres sphères, quoi. Et c'est difficile de le voir autrement que comme ça, malgré, enfin, et justement aussi par les cadres dans lesquels on grandit.
Alors, oh oui, faut peut-être qu'on évoque aussi, il y a de plus en plus de familles homoparentales, il y a des études qui sont faites sur ces familles-là. L'argument des détracteurs aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul, que certaines de ces études sont menées par des structures avec des avis subjectifs, en l'occurrence menées par des associations gays et lesbiennes. Ça, c'est les détracteurs qui disent ça, c'est pas toujours le cas. Aux États-Unis notamment, je pense qu'ils ont un peu plus d'avance que nous là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine reconnaissance de la famille homoparentale, dans la mesure où il y a quand même des études qui tendent à prouver que les enfants issus de ces familles-là vont ni mieux ni plus mal que les enfants élevés dans des structures hétéro.
Mais c'est ce que disent la plupart des études, quand même.
C'est ce que disent toutes les études. Après, ouais, le souci, c'est qu'aujourd'hui, elles sont parfois contestées pour des raisons qui ne sont pas forcément très, très objectives. Non. Alors, est-ce qu'il y a un manque de recul? Est-ce qu'il va falloir attendre 10, 15, 20 ans avant que, encore une fois, les états d'esprit évoluent, comme finalement ça a été plus ou moins le cas pour la question du divorce? Être enfant de divorcé il y a 25 ou 30 ans, c'était une tare monstrueuse, quoi. Aujourd'hui, voilà, ça semble être plus admis. Ces enfants-là ne sont pas forcément pointés du doigt, d'autant plus que une classe de 20 élèves, il va y en avoir la moitié, 8 ou 10.
Les enfants élevés par des homos soient la majorité dans les classes, il y a encore du boulot.
Tu as raison de ce point de vue-là, ouais.
Mais justement, je trouve que ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a un autre argument dans la préparation, on a entendu Caroline Mécari en parler. C'est-à-dire que quand on est enfant de divorcé, on a encore ces deux parents qui ont tous les deux l'autorité parentale. On a peut-être un problème de parent social avec le beau-parent, mais ce que disait Caroline Mécari dans le même débat que celui qu'on a entendu avec Béatrice Bourges, elle expliquait que l'enfant issu d'un couple de parents du même sexe, il n'a qu'un seul parent légal. Il n'y a qu'une seule personne qui est reconnue comme autorité parentale. Donc en cas d'accident, pour une signature, une autorisation d'intervention chirurgicale ou autre, si c'est pas le parent qui a la signature qui est présent,
donc il y a un problème.
Eh ben on laisse crever le môme. Voilà.
Non, mais bon. Tu vois, mais bon, ça pose quand même des questions. Ça pose vraiment des questions.
On vous renvoie, sans conclure, à l'ouvrage encore une fois de Maurice Godelier, qui a été notre fil conducteur aujourd'hui, Métamorphose de la parenté, paru chez Flammarion, collection Chants Essais.
Et vous pouvez réécouter en intégralité les matins de France Q sur Internet. On trouve ça sur Dailymotion facilement. Maurice Godelier, c'est Godelier.
Au revoir.